Partant de ce terme même d'échappée belle, vous savez, il a un deux sens. Il désigne tout à la fois une escapade dans un endroit agréable qu'on peut découvrir pour la première fois, mais également le fait d'éviter de justesse un danger, un péril. Et dans ce double sens, je dirais, et j'en remercierai Henri qui est juste en face de moi, c'est très intimidant aussi, hein, que grâce à la lecture d'Henri Reynal, je l'ai doublement échappée belle. Sa cosmophilie, elle m'a aidé d'une part à résister, c'est le sens du titre nouveau que Marie-Hélène vient de rappeler, sa cosmophilie m'a aidé d'une part à résister à l'attraction qu'exerce sur bon nombre de sociologues ce que j'appellerais le côté obscur de la force du social. C'est-à-dire, en bref, sa réduction à la contrainte, au pouvoir, à la domination, à l'aliénation. Elle m'a permis de m'immuniser contre une maladie sociologique qui est assez répandue et que, on va y revenir, je propose de désigner sous le terme de sociophobie. Et puis d'autre part, son invitation à prendre, je le cite, le parti du lumineux contre celui de l'assombrissement, eh bien il m'a renforcé dans l'idée qu'il n'était en rien naïf, irénique, de porter son regard sur la face lumineuse de cette force du social, et qu'il n'était peut-être pas tout à fait absurde, même si c'est tout à fait improbable, d'imaginer ou d'esquisser une sociologie qui serait résolument sociophilique. Alors, ce cheminement, vous l'imaginez, il est à l'évidence semé d'embûches. Il suppose non seulement de pouvoir justifier ce diagnostic un peu outrancier d'une sociophobie sociologique, mais Alain a déjà donné des éléments qui pourraient aller dans ce sens. Et le plus difficile, malgré tout, je crois que c'est d'ouvrir la cosmophilie rénalienne à une sociophilie qui, d'un certain point de vue, lui semble presque étrangère, parce que rares sont les pages dans lesquelles Henri évoque ou célèbre un merveilleux objectif dont l'essence sociale aurait vocation à témoigner, à rendre justice, hein, au point où on peut se demander, mais la question en tant que telle est intéressante, mais rend mon voyage encore plus périlleux, si le socius, à la différence de la physis, a sa place dans le cosmos rénalien. Bon, tentons quand même l'aventure. Alors, le point de départ de ce terme, et de ce terme un peu clinique, de ce diagnostic clinique de sociophobie, vient d'un ouvrage du sociologue Luc Boltanski, qui raconte l'esprit dans lequel il menait son travail sociologique dans la bande à Bourdieu dans les années 70. Et le titre de cet ouvrage m'avait particulièrement frappé. « Rendre la réalité inacceptable ». Comme si la sociologie supposait, à titre de geste fondateur en quelque sorte, de rompre avec toute affinité, toute confraternité avec le monde, pour reprendre des termes d'Henri. Comme si l'énigme même de l'ordre social, le fait qu'il y ait, Alain l'a rappelé, parmi les hommes, quelque chose plutôt que rien, alors qu'est-ce que ce serait le rien ? Le chaos, l'arbitraire de la violence, la guerre de tous contre tous. Ou pour le dire autrement, le fait que ceux-ci parviennent à donner forme à leur coexistence, eh bien tout ça n'aurait rien de miraculeux. On peut au contraire résoudre l'énigme de l'ordre social en dévoilant l'arbitraire social. Et on retrouve cette thématique de l'illusion qu'Alain a évoquée. Oui, le monde social n'est autre que le royaume de l'illusion. Et dans ce cadre-là, le sociologue est le chef de ce que Henri nomme la coalition des désillusionneurs. Mais Henri nous dit d'autres choses. Hein, et dans ma lecture de son œuvre en sociologue, il nous dit, dans un texte bien nommé que tu as évoqué, qu'on a publié dans la revue, « Loué soit l'illusion », il nous rappelle combien dissiper les illusions constitue le sport intellectuel favori de notre époque. Et vous savez que Bourdieu qualifiait la sociologie de sport de combat. Et sport favori intellectuel de notre époque, au point où, en raison de l'acosmisme propre à cette époque, eh bien, celle-ci échoue à rendre compte, je cite Henri, d'un objet qu'elle détruit sous elle. Et c'est vrai que, sous bien des aspects, la sociologie tend souvent, parfois, trop souvent, à détruire son objet même, c'est-à-dire l'énigme de l'ordre social, le mystère de l'ordre social, ou ce que je nomme, comme l'a rappelé Marie-Hélène, la délicatessence du social. En ce sens, à l'évidence, si je reprends une autre formule d'Henri, en sociologie, aussi, souvent, trop souvent, la lucidité s'aveugle. Alors comment surmonter cette cécité ? Au MOS, on a une solution très simple, il vous faut chausser les lunettes du don, mais essayons d'avoir un point de vue plus général. Pour surmonter cette cécité, que faire? Henri nous dit dans l'accord, s'émerveiller, c'est tout simplement bien voir. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier, bien voir, en sciences sociales ou en sociologie? Et puis, de quelle merveille la sociologie ou les sciences sociales pourraient témoigner? Ça ne va pas de soi. Donc, pour essayer de frayer ma voix dans cette direction très incertaine, je m'inspirerai de ce bel entretien que Henri a donné pour la revue Missive dont il a été question tout à l'heure, en 2002. Il suggérait que témoigner consiste à, je le cite, « rendre justice à l'inventivité énigmatique à l'œuvre dans la nature ». Et dans ce même entretien, il invitait à considérer le monde comme le théâtre de l'actualisation des possibles. Je vais tenter de suivre à la fois cette suggestion et cette invitation. Et dans ce cadre-là, faire droit au côté lumineux de la force du social suppose de rendre justice à ce qui est, de rendre justice à cette inventivité énigmatique qui se manifeste également, peut-être, dans la texture même du social, dans la chair même du social, de témoigner d'un merveilleux social objectif, de ce trésor des possibles qui serait déposé au cœur des relations interhumaines et dans le mouvement d'ensemble qui s'y dessine. Alors on pourrait bien sûr considérer tout cela comme étant absolument angélique ou irénique ou naïf, et c'est pour ça que je propose d'initier cette réflexion en relisant avec vous cet extrait d'un dialogue du roman L'Accord que Henri a publié en 2009. Très important pour moi et pour la démonstration qui suit. Enfin, démonstration, vous verrez. N'allez pas croire que nous ignorions le détestable, le déplorable, le haïssable. La souffrance, la violence, le conflit, l'iniquité, la vilenie. Nous ne nous dissimulons pas le négatif. Nous contestons la place abusive qui lui est consentie trop souvent. En opposition à l'accaparement des esprits par le déplorable, au détriment du remarquable, de l'admirable, du louable, nous avons choisi de nous consacrer à recueillir la qualité qu'une générosité anonyme ou humaine dispense, à la présenter de façon à ce qu'elle puisse se montrer en sa légitime évidence. Ce plaidoyer pour le parti pris du lumineux, ou pour le parti du lumineux, je ne suis pas sûr que ce soit un parti pris, permet en premier lieu de refuser que cette pensée du déplorable puisse attribuer le monopole de la réalité. Et plus encore, ce plaidoyer nous invite à pointer combien la fascination de nombre de sociologues pour ce côté obscur de la force du social les rend en partie incapables de rendre justice à ce qui est. Et fait d'eux, paradoxalement, des déréalistes, comme le dirait Henri. En fait, s'il est rarement question en sociologie de rendre justice à ce qui est, c'est pour une raison très simple, c'est parce que ce qui est apparemment ne vaut pas un rond. Dès lors, je reprendrai ici les formules d'un ami par ailleurs, qui est une figure importante de la théorie critique contemporaine en France, il s'appelle Emmanuel Reynaud. Dès lors, pour reprendre les formules d'Emmanuel Reynaud, la tâche du sociologue consiste avant tout à faire apparaître, je le cite, « ce monde dans ce qu'il a de tout bonnement insupportable ». Rhétorique de la dénonciation, où il s'agit de montrer que le monde n'est pas ce qu'il devrait être, n'est pas ce qu'il prétend être, il est, quelques adjectifs, immonde, répugnant, à vomir, il est hypocrite. Il ne fait pas ce qu'il nous dit et il ne dit pas ce qu'il fait, il nous ment. Pire encore, il nous aliène, thématique très classique de la sociologie critique. Il faut donc, nous dit Emmanuel Reynaud, décrire pour détacher les subjectivités de ce monde qui est notre ennemi. Il faut saper les modalités d'identification au monde. La critique alors, et j'accélère, vise à rendre raison de cet aveuglement. Voilà, les sujets sont en quelque sorte frappés de cécité, ils sont mystifiés face à ce qui est, et donc ils sont soumis à ce qui est, puisque la réalité leur échappe. Il faut donc, citation d'Emmanuel Reynaud, rendre raison de notre culpabilité inconsciente. Parce que oui, nous sujets, nous sommes directement ou indirectement responsables de ce qui est. Nous sommes empêtrés, englués de façon complice dans tout cela, au point d'être étrangers à ce que nous devrions être. C'est toute la rhétorique de la mauvaise conscience, de la mentalité petite bourgeoise, de tout ce que vous voulez, sera un grand avenir, tout cela. Sera un grand avenir, en fait, sera surtout un grand passé. Tout ça n'est pas très très neuf, ça nous ramène pas au vieux Marx, plutôt au jeune Marx, des années 1843-1844. Vous connaissez peut-être cette formule fameuse, « Il faut rendre l'oppression réelle plus dur encore en y ajoutant la conscience de l'oppression et rendre la honte encore plus honteuse en la livrant à la publicité. Il faut représenter chaque sphère de la société allemande comme la partie la plus honteuse de la société allemande. Bigger. Il y aurait d'autres passages à donner qui vont effectivement dans le même sens sur la thématique de la confession des péchés, etc., dans la lettre à Rougeux dans ces années-là. Mais pour autant, et c'est ça qui m'intéresse, pour Marx, une fois que la réalité de l'oppression, de l'exploitation est décrite, une fois que cette conscience mythifiée est tirée de son sommeil, sommeil en partie coupable, comme je vous l'ai dit, il s'agit quand même pour Marx d'en extraire son potentiel utopique qui est déjà là, et de rendre ainsi possible un nouveau rapport au monde. C'est le même Marx qui peut écrire. On verra alors que depuis longtemps, le monde possédait le rêve d'une chose dont il suffirait de prendre conscience pour le posséder réellement. Ou, vous connaissez sûrement ce passage, la critique a saccagé les fleurs imaginaires qui ornent la chaîne, non pour que l'homme porte une chaîne sans rêve ni consolation, mais pour qu'il cueille la fleur vivante. Et cette formule, d'ailleurs, n'est pas sans évoquer celle d'un anarchiste que j'aime bien, Élie Reclus, qui est moins connu que son frère le géographe, pour qui l'idéal n'est autre que la fleur de la réalité, c'est comme ça qu'il l'a défini, dont il s'agit de cueillir le fruit. Alors cette image du rêve d'une chose, cette image de la fleur vivante qu'il s'agirait de cueillir, elle m'a toujours intrigué, notamment parce que chez Marx, elle semble contraster, ou du moins entrer en tension, avec cette rhétorique de la dénonciation, cette rhétorique de l'aliénation que je viens de rappeler. Je propose de l'interpréter en ce sens. À trop vouloir rendre le monde inacceptable, le risque est grand de saccager aussi la fleur vivante, du moins d'être incapable de l'accueillir. Et je peux même m'appuyer sur Marx là-dessus, dans sa critique de ce qu'il appelle la critique critique dans la Sainte Famille. Et je prends juste ce passage-là. Pour cette critique critique, un peu le plus critique que moi tu meurs en quelque sorte, qui est aussi un sport très répandu dans nos disciplines, pour elle, tout ce qui est réel, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'expérience sensible, est non critique. Par conséquent, dit Marx, n'est rien. Et seules les créatures idéales, fantasmagoriques de la critique critique sont tout. Or, pour Marx, la tâche de la critique la plus radicale, celle qui prend les choses à la racine, elle doit au contraire rompre avec ses spéculations abstraites, doctrinaires. Elle doit cesser de penser l'idéal comme une sorte d'implant transcendantal qu'on viendrait greffer sur le réel, qui viendrait dans ses où. Elle doit au contraire révéler en quoi ce qui est contient déjà, à titre de virtualité, ce qui doit être. Donc, rendre justice à ce qui est en ne détachant pas l'idéal et le réel, et au contraire, en concevant l'idéal comme la tendance, comme le mouvement d'une chose existante. Alors vous pourrez trouver ces formules très très obscures, elles ne sont pas si mystérieuses. Elles consistent à affirmer tout simplement que la seule objectivité qui se conçoit est celle qui intègre aussi les potentialités des actions, des relations, des situations. Il en résulte une conception nécessairement ouverte, mais aussi généreuse du monde social. Pourquoi ? Parce que dans une telle perspective, les idéaux existent bel et bien dans le monde, dans la nature, du moins pour qui sait voir, ce qui suppose que le monde puisse être hospitalier à nos aspirations. En ce sens-là, il ne peut pas être notre ennemi. Il puisse être hospitalier à nos aspirations. Et je le dirais dans les termes de John Dewey, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer, ce philosophe initiateur du pragmatisme américain. Pour Dewey, la critique doit manifester ce qu'il appelle une piété face à ce qui est. Il écrit dans l'un de ses ouvrages, « En dépit de toutes ses imperfections et de ses défauts, la nature, dans laquelle il faut inclure l'humanité, peut susciter un sentiment de piété en tant qu'elle est la source d'idéaux, de potentialités et d'aspirations et le foyer possible de toutes les formes de bien et d'excellence accessibles. » Ainsi, d'une façon paradoxale, critiquer ce qui est suppose d'en donner la meilleure description. Celle qui fait droit aux possibilités idéales qui sont données dans le monde afin de nous offrir les moyens propres à les actualiser et donc d'en cueillir les fleurs vivantes. A l'inverse, comme le suggère Henri, à s'enfermer dans l'indignation, on fait son jeu. Ainsi, pourrait-on dire, et ce sera une des pistes que je vais développer maintenant, au même titre que la littérature ou l'art en général, la sociologie peut alors être conçue, pour reprendre une autre formule de John Dewey, comme un commentaire sur la nature et la vie en vue d'une appréhension plus intense et plus juste des significations accompagnant l'expérience. Alors, vous pourriez me dire, m'objecter que cette critique de la sociophobie sociologique n'est pas très sociologique, hein, que c'est de science dont il s'agit, tout le reste n'étant que littérature. Ben justement, en travaillant à cette communication, je suis retombé sur cette profession de foi sociophilique d'un sociologue américain, aujourd'hui un peu oublié. Il était un grand amateur de littérature. Pour lui, Shakespeare ou Goethe étaient parmi les plus grands sociologues. Il a été formé à l'école du transcendantalisme d'Emerson, ce philosophe du sublime dans l'ordinaire, et il a été pionnier avec son ami John Dewey du pragmatisme. Cet auteur s'appelle Charles Horton Cooley. Et dans l'un de ses derniers textes, il écrivait « En vérité, la science, et là il parlait de la science sociale principalement, est pour partie une forme d'art. Et ce que nos recherches peuvent apporter de plus précieux, c'est cette capacité à observer le mouvement de la vie humaine dans un esprit généreux, enfin, généreux au sens qui embrasse large, hein, à le recomposer de façon à en saisir l'unité idéale et la beauté. » Et dans son journal, et ce qui est le plus passionnant chez Cooley, c'est plus son journal que son œuvre académique, en 1903, il précisait « Le sociologue doit être tout à la fois un collecteur désintéressé de faits et animé d'une vive sympathie avec le mouvement même de la vie. Deux choses difficiles à concilier. Il doit avoir l'état d'esprit d'un naturaliste tout en partageant beaucoup de ses sentiments propres aux moralistes et aux poètes. » Alors bien sûr, cette exigence d'une vive sympathie avec le mouvement même de la vie, cet appel à un esprit généreux, propre à saisir ce mouvement comme un tout, doté de qualité esthétique, doté de qualité morale, mais aussi ce plaidoyer pour un point de vue qui mêle le naturaliste et le poète, ne pouvait que me faire penser à l'œuvre d'Henri Raynal. Comme si Cooley invitait en quelque sorte à appréhender le tout social et le mouvement du tout social, sur le modèle de ce merveilleux objectif de la totalité cosmique rénalienne. Pourquoi dire cela ? Quelques mots simplement, j'en ai pas le temps d'en dire beaucoup plus. Pour Cooley, en effet, l'humanité, la société, l'ensemble des groupes sociaux qui les composent constituent des totalités organiques, c'est-à-dire des ensembles organisés, composés d'éléments interdépendants, animés par la contribution toujours singulière de ces éléments à la vie du tout. Ainsi, pour lui, si ces totalités sociales peuvent susciter l'émerveillement, révéler une beauté qui leur est propre, c'est avant tout parce que, à travers les multiples coopérations qui en constituent la texture, elles manifestent une unité différenciée. À l'image, c'est un exemple qu'il donne, ou une image qu'il donne, de l'harmonie d'un orchestre composé de tout un ensemble d'instruments et musiciens qui se répondent pour interpréter une œuvre commune. Et c'est en ce sens qu'il écrit « Au sens littéral, toute société est d'abord une œuvre d'art, lentement et souvent inconsciemment produite, comme le sont les grandes œuvres, marquée par des traits certes parfois grotesques et étranges, mais d'une beauté inépuisable, source de fascination. » Alors cette fascination, bien sûr, elle a une dimension esthétique, mais elle n'est pas qu'esthétique. Elle a également une autre dimension, on pourrait dire, morale, au sens où, pour Cooley, la sociologie doit nous permettre d'appréhender ce trésor des possibles que j'évoquais tout à l'heure à la suite d'Henri. Un trésor des possibles présent là, concrètement, dans les relations interhumaines, dans ces totalités sociales qui les embrassent. Et dans ce but, il invite ses lecteurs à percevoir, notamment, combien leur vie commune la plus ordinaire, celle qui est menée dans ce qu'il nomme les groupes primaires, c'est-à-dire dans les relations d'interconnaissance, les relations familiales, amicales, de voisinage, etc., ce que Alain nomme la socialité primaire, et bien de montrer comment cette vie commune, la plus ordinaire, elle est la source de tout un ensemble d'idéaux, qu'il qualifie d'idéaux primaires. Et c'est dans cet esprit résolument sociophilique qu'il faut lire son plaidoyer, par exemple, pour la démocratie. Je vous cite juste ce passage. Il dit « D'où tenons-nous nos notions d'amour, de liberté, de justice que nous appliquons aux institutions sociales ? De philosophie abstraite ? Non. Bien davantage, à l'évidence, de la vie effective que nous menons dans ces formes de société élémentaires, les groupes primaires, et largement répandues, dans la famille et les groupes de jeu. » Il poursuit « Égalité des chances, équité, dévouement et allégeance de tous au bien commun, libre discussion, bienveillance à l'égard des plus faibles, les aspirations à une démocratie idéale, ça inclut même le socialisme pour lui, jaillissent naturellement du terrain de jeu et de la communauté de voisinage. Ce qu'il veut nous dire, c'est que cet idéal, ici l'idéal démocratique, il est déjà là, dans les flancs de la société, en attente, on pourrait dire sur le modèle de la parturition, de pouvoir respirer à l'air libre, de pouvoir s'émanciper de ces groupes restreints où ils étaient confinés, pour s'ouvrir à la société dans son ensemble. Mais on voit bien là le conseil qui nous est ici prodigué. Dans cette perspective, la sociologie, et en vertu même de son ambition critique, doit cesser de calomnier l'expérience ordinaire, selon la formule de Dewey, manifester au contraire un respect pour cette expérience humaine et pour ses potentialités, et donc témoigner, à travers cet exemple, que ce trésor des possibles, la fameuse fleur vivante de Marx, est en quelque sorte à portée de main. Deuxième dimension de cette force, de ce côté lumineux de la force du social. Comme je l'évoquais tout à l'heure, rendre justice à ce qui est, c'est aussi, d'un point de vue sociophilique, témoigner de l'inventivité énigmatique à l'œuvre dans la texture même du social, en nous rendant sensibles par un travail de description méticuleux à ces petits miracles quotidiens par lesquels se nouent les rapports sociaux, à ces purs moments de société où le social apparaît en pleine lumière. Ce que je voudrais évoquer, c'est le caractère épiphanique du social, en quelque sorte. Je vous en propose une illustration que j'emprunte, je m'en excuse, également à l'essai sur le don de Marcel Mauss. Dans cet
c'est
essai... Merci. Dans cet essai fameux, Mauss, comme un peintre ou un photographe, propose de saisir les grandes fêtes du don des sociétés traditionnelles, potlatch, kula, pilou-pilou, sous cette belle formule. L'instant fugitif où la société prend. Comme si dans ces instants, ou à travers les présents donnés, reçus, rendus, la société manifestait, je cite Mauss, son aspect vivant. Comme si s'offrait au regard des participants, mais aussi du témoin, l'anthropologue, le mouvement du tout, formule également de Mauss. Instant fugace, rajoutait Mauss, où les hommes prennent conscience sentimentale d'eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d'autrui. Alors il s'agit à l'évidence de moments privilégiés où le lien social, l'énigme même du questionnement sociologique en quelque sorte, se noue in statu nascendi, in situ. Le social se donne à voir en quelque sorte en pleine lumière, dans ce pur moment de société, dans ce qu'on pourrait appeler une épiphanie du social. Et on retrouve l'idée de la brèche lumineuse de l'échappée belle ou du parti du lumineux d'Henri. On pourrait tenter une sociophanie, si jamais ça a un sens. Je voudrais vous citer un autre passage de Mauss qui peut nous permettre de toucher en quelque sorte ce côté lumineux. Il souligne la même expérience en décrivant dans ses termes les danses d'une tribu maritime de Nouvelle-Guinée. Et je dois à Stéphane Corbin que je remercie cette citation. Ce mouvement rythmique, uniforme et continu, c'est la description d'une danse. Ce mouvement rythmique, uniforme et continu est l'expression immédiate d'un état mental où la conscience de chacun est accaparée par un seul sentiment, une seule idée, hallucinante, celle du but commun. Tous les corps ont le même branle, tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri. Avoir sur toutes les figures l'image de son désir, entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté, sans résistance possible, dans la conviction de tous. Confondus dans le transport de leur danse, dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus qu'un seul corps et qu'une seule âme. C'est alors, et on pourrait souligner ce passage, que le corps social est véritablement réalisé. Comment, à travers cette danse, le corps social est véritablement réalisé. Alors, vous pourriez m'objecter que ces rites qui célèbrent ainsi notre vie commune ne sont qu'une affaire de sauvages, quoi. Que ces moments d'effervescence collective où la société prend relèvent d'une capacité d'émerveillement qui, en fait, renvoie à la naïveté propre à des sociétés prémodernes, à ces sociétés restées prisonnières de ce que le sociologue Max Weber nommait le jardin enchanté de la magie. Ce monde où tout fait sens, cette forêt de symboles où, par analogie, tout renvoie à tout. Or, à l'évidence, je ne développe pas ce point-là, nous partageons, nous aussi, de tels moments d'enchantement, à l'évidence. Ce bonheur banal que nous prenons à la socialité pour elle-même, à la manifestation du social comme tel. Et j'espère que vous avez ces expériences épiphaniques du social. Ce bonheur de se lier, il peut s'attester par exemple dans une simple conversation. Un autre sociologue, Georg Simmel, invité à la saisir comme un bonheur de pure forme, hein, c'est-à-dire un bonheur où les contenus engagés dans la relation importent peu, que le jeu de société, où chacun donne, je cite Simmel, et reçoit de l'autre, rien d'autre que le maximum de valeur sociable, en joie, en vivacité, et où, je cite encore Simmel, la matière du discours n'est que le support indispensable des attraits que l'échange vivant de la parole, déploie comme tel. Je ne développe pas, vous avez des exemples en tête de ces moments concrets où nous faisons l'expérience de tels instants fugitifs où la société prend. Je peux maintenant me diriger vers ma conclusion. Je m'excuse, elle va être longue, ce n'est pas vraiment une conclusion, je triche, c'est ma dernière partie. Ouais. Il est temps de nous diriger quand même vers des éléments de conclusion pour préciser vers quelle anthropologie générale, avec beaucoup de guillemets de modestie, nous conduit cette incursion du côté lumineux de la force du social. Partons de cette citation, encore une fois, de John Dewey dans son grand livre « Expérience et nature ». Il écrit « L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'expérience humaine en général réside dans l'intérêt qu'elle porte à la fête et aux festivités, à l'ornement, à la danse, au chant, à la pantomime dramatique, aux histoires que l'on raconte. Ce qu'il veut ainsi marquer, c'est combien cette expérience, donc l'expérience humaine dans sa généralité, ne saurait être dictée par les seules pressions de la nécessité ou de l'utilité. Je retrouve là des thèmes qu'Alain a présentés aussi. À l'inverse, prévalent des activités multiples qui sont à elles-mêmes leur propre fin, qui produisent, pour Dewey, un plaisir, une joie immédiate, en ce sens esthétique, mais des expériences que l'on ne peut éprouver qu'en collectivité, en vertu de la force du social et de son côté lumineux. D'où sa critique, par exemple, de la conception si terne du bonheur des utilitaristes, qui n'est qu'affaire de calcul, d'efforts, d'industrie, de comptabilité arithmétique. Non, Dewey nous montre combien à cet économisme comptable s'oppose cet impératif anti-utilitariste de gratuité qui est si caractéristique des sociétés traditionnelles, où, selon Dewey, le corps est paré, on peut penser ici à la notion rénalienne d'apparure, où le corps est paré avant d'être vêtu, où les maisons sont encore des taudis, alors que les temples et les palais rivalisent de beauté. Bref, où le luxe l'emporte sur la nécessité. De la pêche et de la chasse, les hommes font un jeu. Tout travail utile est, dans la mesure du possible, métamorphosé par les rites et les cérémonies qui les accompagnent. Il est, nous dit Dewey, subordonné à l'art. Il suggère même que la jeunesse du langage serait à chercher du côté poétique de la vie. Il écrit « La source de la parole ne réside pas dans le sombre esprit de sérieux, mais dans la griserie du jeu et l'hilarité juvénile. Qui nierait, poursuit-il, que c'est à la littérature plus qu'au commerce et à la science que l'on doit le développement de nos ressources linguistiques ?» Et on retrouve là Rousseau, je remercie une seconde fois Stéphane, c'est terminé après, qui m'a donné ce passage du premier discours de Jean-Jacques, on nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes. Voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques. Alors, je conclue. Mettre ainsi l'accent sur le côté poétique de la vie invite à poser une hypothèse assez singulière pour les sciences sociales. Mais je crois que c'est l'hypothèse à laquelle nous invite, peut-être, la cosmophilie rénalienne. Et si au commencement était l'enchantement, et si au commencement était l'émerveillement. Et d'ailleurs, dans ce même texte, Experience and Nature, Dewey, qui est un grand lecteur de littérature anthropologique, suggérait que si dans ces sociétés traditionnelles, le surnaturel domine, c'est parce que la fantasmagorie du surnaturel manifeste la beauté de la pensée, la beauté de la forme et du mouvement, et qu'elle abonde en ce sens en exemple enchanteur de cohérence logique entre les êtres entre les choses et les êtres, entre le visible et l'invisible. Je crois qu'on retrouve là un thème cher à Henri, c'est la cohérence de l'univers qui est au principe de sa beauté et de l'enchantement qu'il suscite. Et de ce point de vue-là, peu importe qu'elle soit perçue par la pensée magique, mythique ou par les sciences les plus modernes. On peut poursuivre un peu plus loin cette hypothèse un peu périlleuse. Cette forêt de symboles, cette théâtralité des rituels des sociétés traditionnelles, par lesquelles elle se célèbre elle-même, ne marque-t-elle pas combien les pensées et les actions humaines ont d'abord valeur d'éloge, c'est-à-dire d'éloge adressé à ce que Durkheim nommait le divin social, la société elle-même, hein, marquant ainsi leur gratitude à cette totalité sociale qui les embrasse. Ce qui signifie par contraste que l'efficacité des rites, la force du symbolisme, n'est pas recherchée en premier lieu, dans une quelconque utilité. Il manifeste avant tout ce par quoi la société se rend présente à elle-même, la société se donne à elle-même d'une façon immédiate, d'une façon sensible. Comme si, je vais paraphraser ici Jacques De Witte, comme si l'être du social, dans la profusion des formes par lesquelles il se manifeste, devait se redoubler en un paraître, comme si était inhérent à la vie sociale un besoin de se montrer, de s'exhiber, de se donner à voir, de déployer des dispositifs ornementaux, rituels, festifs, ludiques, hein, qui, bien loin d'être utiles, peuvent parfois aller à l'encontre de tout principe d'utilité ou être la source des activités utiles et fonctionnelles, mais je ne vais pas développer ce point-là. Mais éclairer de la sorte le côté lumineux de la force du social permet de suggérer que la vie interhumaine repose, pour le dire avec un terme peut-être trop fort, repose sur le congédiement de la nécessité, de l'utilité, de la fonctionnalité. Ou pour reprendre une formule d'Henri, dans quelques lignes magnifiques qu'il a consacrées au sourire, repose sur une suspension des causalités. Pourquoi ? Peut-être parce que la nécessité, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nourrit la concurrence vitale. Au profit de quoi ? De la beauté, de la forme, tant des formes symboliques que des formes sociales, en tant que ces formes répondent au besoin premier, celui de la mise en sens de l'existence individuelle et sociale face aux pressions de la nécessité, face aux caprices de l'utilité. Bref, au profit de l'émerveillement, pardon, en tant que l'émerveillement nous unit, en tant qu'il permet une harmonisation sur le modèle de l'accord rénalien, du soi avec l'univers, du moins s'il l'accepte, si Henri l'accepte. On désigne par ce thème l'univers, la totalité des conditions avec lesquelles le soi est en relation. Je formule encore les choses autrement et je conclue vraiment. Mettre ainsi l'accent sur le côté poétique ou symbolique, peu importe les termes, de la vie sociale, c'est donc souligner combien, ou du moins faire l'hypothèse, combien l'expérience de la coprésence d'autrui, de l'être ensemble, suscite d'elle-même cette expérience collective de l'émerveillement. Et l'ensemble des actes qui s'y invente. Je cite ce qu'évoque Henri dans Cosmophilie, complimenter, louer, chanter, honorer, célébrer, parer, orner, faire œuvre de beauté. Comme si la force généreuse du social, qui nous était ainsi donnée, par la force nouvelle qu'elle donne à chacun, en l'invitant à sortir de soi, à s'enrichir dans la relation, dans la confrontation à l'altérité, par sa capacité aussi, je l'ai évoqué, à produire des idéaux collectifs, eh bien, comme si cette force généreuse du social appelait un don en retour. Et peu importe alors que ce don soit adressé aux puissances invisibles, en tant qu'elle symbolise le groupe, aux ancêtres et aux morts, ou à nos contemporains, que ce don prenne la forme des grandes fêtes rituelles sacrées des sociétés traditionnelles, ou de ces petites cérémonies toutes profanes, propres à nos formes de sociabilité quotidienne moderne. Là, je conclue vraiment.
Encore ?
Oui. Si c'est écrit, comme il nous faut conclure, je voudrais souligner que rendre justice au côté lumineux de la force du social n'exige pas pour autant de laisser dans l'ombre, bien évidemment, sa face obscure. Elle invite à faire l'hypothèse, qui est fondamentale dans le paradigme du don, que ce qui nous lie, le symbolique, contient au double sens du terme ce qui nous divise, le diabolique. Ou pour faire image, la lumière, cette dimension morale, épiphanique, esthétique du social, elle n'apparaît que sur fond d'ombre, et cette ombre, ce fond d'ombre, c'est celui de la violence. Prendre le parti du lumineux n'occulte donc pas la possibilité, toujours présente, parfois omniprésente, de basculer du côté obscur de la force, du social. Simplement, et ce n'est pas rien, ce parti du lumineux, qui, me semble-t-il, et on se rejoint avec Alain, qui n'est autre que le pari du don, nous invite à penser combien le monde social ne saurait s'instituer, ne saurait se pérenniser sans cette générosité anonyme ou humaine qu'évoquait Henri, dont le sociologue, comme le poète, serait bien inspiré de témoigner, de façon à ce qu'elle puisse se montrer en sa légitime évidence. Merci.